Bruit de Chine sur le 106.6 de Radio Campus Lille jusqu'à 14h. Nous sommes en compagnie du vidéaste Bertrand Gaden qui revient d'une résidence au Centre d'art et de culture sino-européen e-art campus de Hangzhou où il a enseigné. Il a par ailleurs exposé ce printemps fragments d'un paysage à projeter au Centre d'art de Liangshu, toujours à Hangzhou, enfin dans la région en tout cas. Alors, on ne naît pas artiste, on le devient, pourrait-on dire en paraphrasant Simone de Beauvoir. Alors, en ce qui vous concerne, vous, Bertrand Gaden, comment l'art est-il entré dans votre vie ? Ça commence fort. Hein.
Oui, ça commence fort. Presque tout petit, pourrait-on dire. C'est-à-dire, très tôt, je me suis intéressé à la peinture, au dessin. Et ensuite, j'ai fait des études à l'École nationale des beaux-arts de Nancy, où j'ai eu plusieurs diplômes d'ailleurs, diplôme de peinture et puis un DNSEP. Et ensuite, j'ai poursuivi après cette formation, hein, plus, évidemment plus précise, hein, plus pointue, j'ai poursuivi mon travail artistique tout en cumulant d'ailleurs un travail d'enseignant dans différentes écoles d'art.
Alors justement, faire des études d'art, est-ce que c'était une évidence quand on est un adolescent ?
À l'époque, c'était une volonté de ma part, hein, voilà, une volonté farouche qui n'était pas forcément acceptée naturellement dans ma famille. Donc il a fallu que je me batte un petit peu pour que cette formation supérieure puisse être acceptée. Et voilà, c'est parce que c'est une formation pas évidente au niveau professionnel. Voilà, c'est pas quelque chose qui aboutit réellement à une profession ou à des professions au départ précises, quoi. Donc tout, voilà, il y a une part d'aventure.
C'est sûr, et en général, les parents s'inquiètent. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous intéresser d'abord au cinéma expérimental ?
C'est par rapport à mon cheminement, par rapport à ma formation. Très très tôt, j'étais intéressé par l'art contemporain. Mes études ont commencé dans les années 70, donc l'art contemporain était quelque chose de naissant et pas forcément ne dépendait pas forcément d'un enseignement concret dans l'école d'art. Cet intérêt, ce goût à l'art contemporain s'est développé à travers une pratique picturale de ma part, mais également photographique, puis et à travers la vidéo, et naturellement à travers l'image animée, le cinéma expérimental. Donc voilà, tout ça très rapidement, hein, et d'une manière un peu autodidacte, presque en autodidacte, c'est-à-dire que très, très peu de conseils, j'ai reçu très peu de conseils de la part de mes enseignants de l'époque, hein, qui étaient dans d'autres sphères.
Ils ne savaient pas faire.
Voilà, plus académiques. Donc c'est un cheminement, c'est une traversée personnelle, et puis dans un bouillonnement aussi de l'époque, plus ou moins révolutionnaire, où on avait envie de faire d'aller plus loin, de voir de nouvelles choses. Il y avait l'émergence de la culture américaine, hein, la Beat Generation, Andy Warhol, le mouvement Fluxus qui commençait à être reconnu en France et à l'étranger. Voilà, donc on a plongé, moi et quelques camarades, on a plongé un petit peu dans ce qui était rare, hein, on a plongé dans ce bouillonnement.
Finalement, la vidéo, c'était la liberté pour un jeune artiste.
Oui, bien sûr. C'était d'abord un médium qui était tout à fait nouveau, hein, sorti par la Sony, hein, la société Sony. Hein. Le matériel a été acheté par un artiste enseignant, hein, Monsieur Roland Baladi. Hein, qui habitait Paris, mais qui enseignait à l'école et qui nous a fait découvrir ce matériel, qui a organisé aussi des workshops sur l'utilisation de ce média. Et voilà, je me suis accaparé ce matériel presque en catimini, hein, pour réaliser mes premières expériences artistiques, performatives avec ce médium.
C'est vrai que c'était aussi l'époque de la performance, on a un peu oublié ça. Quels sont les fondamentaux de votre travail de créateur, si on devait en quelques mots dire, voilà, Bertrand Gaden, c'est ça?
Je fais beaucoup de travaux, de recherches sur le principe de la projection de l'image, Donc c'est déjà pour moi quelque chose de fondamental à travers la projection, notamment la projection d'images vidéo. Et mon vocabulaire artistique s'appuie sur des éléments naturels. Hein, c'est-à-dire que je parcours le monde et je filme des éléments qui se trouvent souvent dans la nature, que je prélève dans la nature et qui sont des fragments du monde, en fin de compte, hein, des parties du monde végétal, animal ou minéral ou autre, hein, et ensuite que je recontextualise dans l'architecture des lieux où je montre mon travail aussi bien à l'intérieur des lieux qu'à l'extérieur des lieux, c'est-à-dire que j'aime aussi investir l'espace urbain.
Il est vrai que vous êtes quand même très connu pour mettre des images d'animaux de manière énigmatique la nuit sur des vitrines ou sur des murs, des images qui nous interpellent, et vous travaillez aussi sur l'échelle.
Oui, oui, oui. Alors ça, c'est le principe aussi de la projection de l'image, c'est-à-dire qu'effectivement, l'image est agrandie, peut avoir des dimensions assez, très importantes. Ça peut envahir toute la surface d'un mur, d'une surface d'un bâtiment. Enfin, donc voilà. Donc automatiquement, il y a des rapports d'échelle. Évidemment, par rapport à nous, à notre taille, sur lesquels j'aime bien également dialoguer, enfin créer effectivement des mises en scène qui vont mettre en jeu cette différence d'échelle.
Est-ce que c'est pas une manière un peu de réenchanter la ville ?
Ben, je l'espère, effectivement.
En tout cas, moi, je le ressens comme ça.
C'est un théâtre, c'est-à-dire que la ville devient un théâtre, une mise en scène, comme si, à la limite, on était à l'intérieur d'un film, comme si on était projeté nous-mêmes en tant que figurant à l'intérieur d'une scène cinématographique. Le fait de se promener dans la rue la nuit, on est dans un état entre le sommeil et la situation d'être éveillé, entre le rêve et le cauchemar. Donc on est dans une situation onirique, fantasmagorique. Et ça, j'aime bien, oui, effectivement, j'aime bien travailler sur ces notions-là.
On a un peu l'impression aussi que vous posez une question philosophique, celle de la place de l'homme dans son environnement, que ce soit à l'extérieur, donc dans les villes, et aussi dans le musée, en changeant l'échelle.
Oui, il y a beaucoup de questions qui m'interpellent, hein, dans mon travail. Effectivement, il y a ce questionnement par rapport à nous-mêmes. Qui sommes-nous ? Quelle est notre perception du monde ? Quelle est notre perception de l'art également ? Quelle est notre perception de la nature ? Quelle est notre perception du monde animal, par exemple, ou d'autres éléments naturels ? Mon travail est parcouru par différentes réflexions, par différents questionnements. Oui, effectivement, qui sommes-nous ? Comment pensons-nous, quelles sont nos réflexions, quelles sont nos angoisses, quelles sont nos phobies, quelle est notre culture aussi, hein, comment on voit le monde à travers notre culture.
Bien, alors ça tombe bien, puisque quand vous allez en Chine, vous allez voir le monde à travers la vôtre et puis une autre, celle des Chinois. Dans quelles circonstances avez-vous découvert cette Chine ?
À plusieurs reprises, hein. Je suis allé en Chine en 2008 lors d'un échange entre un échange artistique entre la ville de Lille et la ville de Pékin, où on est resté un certain nombre de semaines et où on a exposé au Today Art Museum.
Tout à fait. Et c'était avec Mahan, Elsa Godefroy et Manuel Ruiz Vida.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc trois artistes. Donc c'était une découverte, hein, de ce pays, de Pékin, du monde artistique. C'était quelque chose de très spectaculaire, de très saisissant par rapport à ce que l'on vit ici en Europe, par rapport à ce que l'on vit ici en France. C'est un monde, un autre monde, hyper dynamique, avec une économie florissante, des rencontres d'artistes chinois très riches, très enrichissants et des visites d'ateliers d'artistes, des visites de villages d'artistes inimaginables en France, quoi, hein, Voilà, donc c'était vraiment un choc très, très fort. Et puis, donc, cette année, j'ai été invité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, par E-Art Campus, qui est une école privée qui se trouve à Hangzhou, hein, qui est une ville de 6 millions d'habitants.
Une petite ville, en quelque
petite
sorte.
Petite ville. Et qui m'a proposé cette résidence de 2 mois et demi. Voilà, et où j'ai pu retrouver, mais encore décuplé, depuis 2008, le pays a changé voilà, et toujours aussi dynamique.
Pour les changements, qu'est-ce qui saute aux yeux entre 2008 et 2016?
Ben c'est au niveau urbain, hein, c'est, comment dire, ça s'est amélioré au niveau urbain, au niveau des véhicules de transport. Hein. Hein, on trouve énormément de voitures de luxe, hein, beaucoup de marques allemandes et européennes, pas beaucoup de marques françaises, malheureusement.
Mais oui, c'est le niveau de vie qui s'élève et le luxe qui les attire.
Oui. Et puis, au niveau de la construction aussi, c'est un véritable chantier de bâtiments, de villes nouvelles.
Oui, ça continue.
Mais c'est vraiment étonnant parce que là-bas, tout se fabrique d'une manière presque instantanée. C'est-à-dire que tout est construit et importé directement. C'est-à-dire que les bâtiments se construisent, mais en même temps, ils importent directement la végétation et ils implantent, par exemple, les arbres qui sont déjà très grands. Donc c'est assez impressionnant de voir des forêts implanté en quelques jours, en quelques semaines.
Ah oui, et donc justement, puisque une de vos sources d'inspiration, c'est la nature, comment percevez-vous cette nature en Chine?
Alors, c'est une nature de toute façon fabriquée. Hein. Mm-hmm. La nature n'existe plus. Une nature sauvage n'existe plus.
Ou hein, alors, il faut aller très loin.
Oui. Et... Donc c'est des lieux où j'aime aller, et notamment à Hangzhou, il y a un immense lac, hein, le lac de l'Ouest, et tout autour une végétation luxuriante, mais composée, quoi, organisée, hein, avec des temples, enfin des lieux, différents lieux plus ou moins touristiques, hein, et ce sont des lieux très, très, très agréables, quoi, pour se promener, pour... En ce qui me concerne, photographier, filmer, déambuler, c'est immense.
Donc des lieux inspirants.
Oui, tout à fait.
Alors on va revenir à cette école, le E-Art Campus de Hangzhou. Alors comment fonctionne cette école? Comment sont recrutés les étudiants, par exemple?
Ce sont des étudiants chinois qui poursuivent des études à l'académie de Hangzhou, qui souhaitent apprendre le français... pour ensuite poursuivre leurs études artistiques en France, dans des écoles d'art françaises.
Ah oui, donc il y a la dimension linguistique et la dimension artistique. Quel accueil avez-vous reçu?
Très bien, hein. On est très bien accueillis, ils sont adorables, hyper respectueux, hyper gentils, prêts à vous aider, à trouver des solutions quand vous avez des problèmes, très attentifs... Très, très à l'écoute, voilà, donc des échanges très, très riches, beaucoup de production également. Hein.
Alors justement, vous avez une grande expérience de l'enseignement, puisque vous étiez professeur à l'école des Beaux-Arts de Dunkerque. Est-ce que le niveau de cette école de Hangzhou est comparable finalement à nos écoles des Beaux-Arts?
C'est quand même différent, hein. C'est pas tout à fait le même fonctionnement, mais bon, la qualité des réalisations me semble pas forcément éloignée à la qualité des réalisations des étudiants français, quoi. Hein, ils sont très ouverts sur l'art occidentale, sur l'art mondial, donc ils ont quand même de bonnes connaissances, hein, de plus en plus, hein, grâce évidemment à Internet. Donc ils ont certaines connaissances, ils ont un certain savoir, ils ont des capacités de réalisation, des outils également. Donc Voilà, mais ils sont fascinés, enfin, par rapport aux étudiants que j'ai rencontrés, hein, ils sont fascinés par l'Europe, ils sont fascinés par la France, notamment, quoi. Donc, ils veulent absolument venir en France, ils veulent absolument venir poursuivre des études en France.
Donc, dans la salle de classe, finalement, vous n'étiez pas dépaysé?
Non, pas du tout, puisque c'était quasiment le même enseignement que je faisais là-bas par rapport à la France.
Est-ce que vous avez eu le temps de mener un travail personnel de création?
Oui, bien sûr. J'enseignais deux jours et demi par semaine, donc le reste de mes journées était consacré à ma production artistique. Donc j'ai réalisé plusieurs œuvres, hein, enfin une quinzaine d'œuvres sur place. Hein.
Et donc ces œuvres, on a pu les retrouver dans l'exposition Fragments d'un paysage à projeter, j'imagine.
Voilà, tout à fait, dans ce nouveau centre d'art qui vient d'ouvrir. Hein, c'est un centre d'art qui a été créé par l'architecte japonais Tadao Ando, qui est un architecte connu, hein, célèbre. Ce bâtiment est donc tout neuf et ils m'ont donné l'autorisation, ils m'ont donné l'opportunité de montrer mon travail. Ils ont organisé une exposition personnelle dans ce lieu qui est gigantesque, hein, avec des salles 10 mètres sous plafond, enfin sur plusieurs centaines de mètres carrés, voire milliers de mètres carrés. Hein.
Ah, on n'a pas tous les jours ça par ici?
Non, surtout ça s'est décidé très vite. Hein. C'est-à-dire arrivant, je ne savais pas que j'allais exposer dans ce lieu, quoi.
Ah, d'accord, parce que chez nous, 3 ans avant, c'est quand même un minimum.
Voilà, ça s'est fait en quelques semaines.
Ah oui, c'est sûr que c'est impressionnant. Alors, vous y retournerez, j'imagine?
Ben, je l'espère, oui. C'est un pays tellement, malgré tout neuf, c'est ça qui est très étrange, jeune, dynamique, qui cherche à s'ouvrir par rapport à l'art. Donc c'est une sorte d'éclosion permanente de lieux artistiques, hein, souvent des lieux également gigantesques, hein, des lieux privés, hein, des fondations privées, des centres d'art privés. Voilà, quoi, ça donne envie d'y retourner, ça donne envie d'y travailler, ça donne envie d'y exposer.
Et bah oui, parce que la Chine, c'est infini. On peut pas avoir fini. On n'a jamais fait le tour de la Chine. Ouais. Donc, et même si on y reste longtemps, parce que 2 mois et demi, c'est quand même, ça laisse le temps de s'imprégner d'un lieu, des gens, etc. Et ça crée des liens. Et en fait, c'est comme ça que les Chinois travaillent. Ils travaillent avec des liens sur le long terme. Donc, on vous souhaite d'y retourner. En tout cas, Bertrand Gaden, merci. Je rappelle que si on veut vous retrouver en dehors de la Chine, on peut le faire cet été à Pile Pont Expo, archipel art contemporain à Saint-Gervais du côté du Mont-Blanc. C'est jusqu'au 25 septembre. Et donc, le titre, c'est « Fragments d'un paysage », qui rappelle un petit peu, j'imagine, qu'on peut voir les œuvres qu'on a vues en Chine.
Non, ce sont pas du d'autres tout. Œuvres.
Bon, en fait, le paysage est infini. Bruit de Chine, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine édition de Bruit de Chine. D'ici là, portez-vous bien.